Vous savez, vous qui êtes chez vous, derrière votre ordinateur ou bien votre téléphone, et comme d'habitude, nous allons demander au Saint-Esprit vraiment de permettre que nous comprenions bien ce que le Seigneur veut dire à chacun de nous. Merci Seigneur pour ce temps d'écoute de ta parole. Merci parce que malgré ce Covid qui nous empêche d'être réunis dans ce lieu de culte, tu permets que nous soyons rassemblés, les uns et les autres, rassemblés dans cette communauté, Seigneur, qui est dispersée maintenant, mais surtout rassemblés autour de toi. Alors nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons de nous adresser la parole, nous te bénissons de nous parler, de parler au fond de notre cœur. Et Seigneur, à travers ce qui va être dit ce matin, nous te demandons vraiment une bénédiction. Amen. Pour ce matin, je me suis largement inspiré du livre de George Sawyer qui s'intitule « La prière de Daniel pour les parents ». C'est un livre que j'ai acheté récemment et qui a été édité par les éditions Vida. Ce que vous allez entendre, c'est la suite du message du mois dernier. Je vous avais parlé de l'importance de la prière en faveur de la génération montante, en prenant comme exemple l'histoire de Daniel et de ses compagnons de captivité à Babylone. La sagesse dont ces quatre jeunes gens ont fait preuve, grâce à la confiance qu'ils plaçaient en Dieu, a profondément changé la vision de Nebuchadnezzar et de Darius, et avec eux, ces deux rois, le climat moral d'un pays idolâtre. Quel chrétien n'aurait pas envie que ses enfants et petits-enfants deviennent des Daniel dans notre pays, afin que nos autorités politiques confessent Dieu, comme l'ont fait Nebuchadnezzar et Darius, et surtout agissent en conséquence en votant des lois justes qui ne s'opposent pas à la volonté de Dieu. Tous les chrétiens dignes de ce monde voudraient voir cela arriver. Mais devant l'immensité du problème, beaucoup baissent les bras, car ils n'ont pas assez conscience de la puissance de la prière pour abattre les forteresses, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, à son dessein et à la vérité. Alors, comment prier pour que nos enfants et petits-enfants deviennent des Daniel? C'est ce que je me propose de voir avec vous ce matin. Dans l'évangile de Luc, un disciple demande à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » On voit ça dans Luc 11, 1. Pourquoi cette demande? Parce que les disciples ont compris qu'il y avait un lien étroit entre la vie de prière de Jésus et la puissance et l'autorité qu'il manifestait dans sa vie et dans son ministère. Comment Jésus a-t-il répondu à cette demande? Il leur a donné une sorte de canevas de prière que nous appelons le Notre Père. Dans cette prière, certaines demandes que Jésus recommande d'adresser au Père sont importantes pour la vie terrestre des croyants. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais il y a aussi deux demandes que Jésus a placées au début et qui concernent le règne de Dieu et sa volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Gardons bien en mémoire que c'est Jésus lui-même qui demande aux croyants de prier ainsi. Il nous montre donc que c'est par la prière que les croyants peuvent amener la volonté de Dieu à s'accomplir sur la terre. Il est important de bien comprendre cette vérité. Si nous voulons véritablement apprendre à prier, c'est là que tout commence. Prier comme Jésus nous l'enseigne, ce n'est pas supplier quelqu'un de bien vouloir intervenir pour régler un problème. Dieu veut nous enseigner une façon de prier qui rend son royaume, sa volonté, agissant maintenant dans notre vie. Il veut que nos prières deviennent les portes qui ouvrent ce monde à sa miséricorde, à sa grâce, à son amour et à son ordre divin. Sa volonté, c'est que chacun des membres de notre famille devienne un disciple engagé de Christ, qu'il mène une vie de justice et d'amour, une vie qui ait un sens au service de Dieu et des hommes. Il veut que chacun accomplisse pleinement chaque aspect de sa destinée. Je répète cette phrase tellement importante. Il veut que chacun accomplisse pleinement chaque aspect de sa destinée. Nos prières ne doivent pas se contenter de moins. Je viens d'employer le mot destinée. Avons-nous conscience de ce que Dieu entend dans ce mot? Lorsque vous êtes venu au monde, lorsque vos enfants et vos petits-enfants sont venus au monde, votre destinée et la leur n'a pas été confiée au hasard. Une sorte de pile ou face qui va déterminer ce que va être notre vie ou la leur. Non. Pile, mon enfant va être disciple de Christ et il sera sauvé. Face, mon enfant va refuser de connaître Christ comme son sauveur et il ne sera pas sauvé. Non, frères et sœurs. C'est le malin qui essaie de nous persuader que c'est ça la destinée. Une sorte de fatalité contre laquelle on ne peut rien. Et pour donner encore plus de force à son mensonge, il voudrait nous persuader de considérer l'état moral lamentable de notre monde comme un état normal auquel on ne peut pas échapper. Il est temps de rejeter cette pensée si elle infecte notre âme. Prendre son parti, même dans les larmes, que certains de nos enfants ou petits-enfants ne confesseront jamais Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est accorder du crédit aux mensonges de Satan. C'est nier la volonté de Dieu et la puissance de la prière. Examinons ce que la Bible dit à propos de la destinée de chaque être. Je vais prendre deux passages. Le premier, c'est dans Jérémie 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Il n'y a aucun hasard dans cette déclaration de Dieu. Il y a une vie que Dieu veut conduire à sa destinée, une destinée dans la communion avec lui. Le deuxième passage, c'est dans le psaume 139. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Ces paroles du psalmiste, inspirées par le Saint-Esprit, nous donnent la preuve que tout est entre les mains de Dieu, notre vie comme celle de nos enfants et petits-enfants. Repoussons, frères et sœurs, toutes les pensées de découragement que le malin essaie d'installer dans notre esprit comme quelque chose d'inéluctable. Depuis combien de temps est-ce que tu pries pour tes enfants? 10 ans? 20 ans? Plus? Et tu as vu quelque chose changer dans leur vie? Gardons nos regards tournés vers Dieu, qui veut le meilleur pour nos enfants et petits-enfants, sachant que le meilleur pour eux, c'est qu'ils aient une relation personnelle avec Christ et soient ses témoins, sachant aussi que Jésus a offert sa vie en sacrifice pour eux comme pour nous tous. Frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Même si cela fait 20 ans ou 30 ans que nous prions, sans voir aucun changement dans leur attitude. De plus, considérons ceci. Dieu n'a jamais promis que nos enfants et petits-enfants deviendraient automatiquement chrétiens parce que nous le sommes nous-mêmes. Dans le message du mois dernier, je rappelais que Satan livre depuis toujours une guerre spirituelle contre Dieu et fait feu de tout bois pour que Dieu et la vie spirituelle soient le cadet des soucis de cette génération et de toutes les générations qui nous ont précédés. L'apôtre Paul avait bien compris cela il y a déjà 20 siècles et il nous exhortait à combattre. Je cite, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Philippiens 6, Éphésiens 6. Parmi les armes dont parle Paul, il y a la prière. Mais quelle prière? Une prière de louange et d'adoration est différente d'une prière d'intercession, elle-même différente d'une prière de repentance, elle-même différente d'une prière de délivrance. Lorsqu'il s'agit de briser les forteresses qui empêchent nos enfants et petits-enfants de se donner à Christ, nous devons nous saisir de quoi? Nous devons nous saisir de l'autorité que Jésus nous a accordé quand nous lui appartenons. Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et il a ajouté, allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Matthieu 28. Allez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire allez avec mon autorité. Frères et sœurs, prenons conscience que chacun de nous est le représentant que Dieu a choisi pour exercer son autorité dans le cadre de notre vie. Chaque chrétien doit prendre conscience de l'autorité qu'il a reçue de Jésus dès lors qu'il est en communion avec lui et soumis à lui. Si nous sommes nés de nouveau, Jésus-Christ, qui a été vainqueur de Satan à la croix et qui est ressuscité, nous a délégué son autorité. La victoire totale de Jésus sur la croix a démasqué l'ambition qu'avait Satan de s'octroyer une autorité sur les hommes après la chute d'Adam. Certes, Satan a encore de la puissance et du pouvoir pour faire le mal et entraîner des hommes à le faire. Mais il n'a jamais eu l'autorité sur les hommes et la création. Dans ce monde, l'autorité n'appartient qu'à Dieu seul. Ne confondons jamais pouvoir ou puissance et autorité. Ce sont deux notions complètement différentes. Un agent de police n'a pas la puissance pour arrêter le camion de 30 tonnes de Patrick Desplantes. Mais il suffit à cet homme de lever la main pour que Patrick arrête immédiatement son camion. Pourquoi ? Parce que cet agent de police est le représentant de la police nationale. Il a l'autorité de la police nationale. Lorsque 1 Jean 5,19 nous dit que le monde entier est au pouvoir du malin, il ne parle pas d'autorité, il parle de pouvoir seulement. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que nous avons l'autorité de Jésus pour nous opposer au pouvoir de Satan. Et cette autorité, nous pouvons l'exercer dans la prière. Il est primordial de comprendre cette notion d'autorité déléguée. Prenons l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu lui a donné la mission de délivrer le peuple d'Israël au buisson ardent, Moïse avait peur de retourner en Égypte et de faire face au Pharaon. Il doutait de ses qualités de leader et invoquait des difficultés pour s'exprimer. Mais il a fini par apprendre ce que nous devons découvrir concernant l'autorité déléguée de Dieu. Notre autorité ne vient pas de qui nous sommes ou de ce que nous avons fait ou pas fait. Elle vient de la victoire de Jésus sur la croix et de notre soumission sans réserve à lui. Nous ne prions pas par nos propres forces ou capacités. C'est lorsque nous prions avec l'autorité qui est la nôtre en Christ que nous libérons la puissance de Dieu. Mais avoir l'autorité et exercer l'autorité sont deux choses bien différentes. Comme Moïse, nous devons apprendre comment cette autorité donnée par Dieu opère dans nos vies. Lorsqu'après avoir été libérés, les Israélites se trouvèrent pris en étau entre les troupes du Pharaon et la mer Rouge, ils furent terrorisés et s'en prirent à Moïse, oubliant les démonstrations de puissance qui avaient accompagné leur libération. Moïse rassure le peuple en disant « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. » Exode 14. Cette parole rassurante nous montre que Moïse sait que Dieu lui a donné l'autorité. Et pourtant, il doute encore. Alors Dieu intervient. Et le texte nous dit, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer et fends-la. » Le bâton de Moïse, avec lequel il accomplissait tous les prodiges que Dieu lui demandait de faire, c'est l'image de l'autorité déléguée du chrétien dans la prière. C'est comme si Dieu lui disait, « Moïse, je t'ai donné l'autorité, alors maintenant, exerce-la. » Comment cela se traduit-il dans notre vie ? Priez avec autorité. Ce n'est pas supplier Dieu. Ô Seigneur, je t'en prie, fais que mon enfant se convertisse. Priez avec autorité, l'autorité de Jésus, c'est déclarer et décréter ce que Dieu a d'ores et déjà établi dans son plan. Dieu a une volonté. Cette volonté s'est manifestée dans son plan de salut pour les hommes. Et ce plan passe par Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour réconcilier les hommes avec Dieu. Priez avec l'autorité de Jésus, c'est entrer de plein pied et avec foi dans le plan de Dieu qui veut que nos enfants aient une relation personnelle avec lui, soient sauvés et soient des témoins. Lorsque nous prions pour nos enfants et petits-enfants, notre prière doit proclamer que nous croyons dans la volonté de Dieu pour eux. Nous devons proclamer et affirmer qu'elle se fera, cette volonté. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a décrété ainsi. La force d'un décret ne dépend pas de celui qui le proclame, mais toujours et uniquement de son auteur. Et cet auteur, c'est Dieu. La question n'est pas de savoir ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. Notre rôle consiste simplement à prier, en étant soumis à Dieu. Lorsque nous prions pour nos enfants, avec l'autorité que nous avons en Christ et dans la soumission à Dieu, la victoire est assurée. N'oublions jamais les promesses qui nous sont faites en Colossiens 2, 15. Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Mais aussi en Luc 10, 19, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà, frères et sœurs, l'assurance qui doit nous habiter lorsque nous prions pour nos enfants et petits-enfants. Nous exerçons simplement l'autorité qui nous a été donnée en Christ, par Christ, et rien n'est plus puissant que lui. Seigneur, il y a des paroles que tu as prononcées, des paroles qui sont dans la Bible, qui sont des promesses qui viennent de toi, que nous avons souvent entendues, mais que nous avons oubliées. Alors Seigneur, les paroles que nous ne devrions jamais avoir oubliées, s'il te plaît Seigneur, grave-les. Grave-les dans nos cœurs, grave-les dans notre esprit, de façon que nous ne les oublions plus jamais. Et de façon, Seigneur, que nous puissions vraiment exercer l'autorité que tu nous as donnée pour nos enfants, pour nos petits-enfants, bien sûr, et pour les personnes qui vivent autour de nous aussi. Seigneur, fais grandir notre foi. Fais grandir notre soumission à toi, comme Jésus était soumis à son Père. Amen.